droite, une contre-culture d'extrême droite qui est en train de se faire à la marque.
Oui, bah, on le voit en France aussi, hein, quand même. Voilà, que dire, bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Moi, je ne peux que observer. Voilà, la réaction vient quand elle peut venir. J'écris évidemment parfois des textes un peu politiques. Mais est-ce que ces polaroïdes sont politiques? Là, je laisse la question au lecteur.
On va en parler. Alors, on plonge dedans, on y va?
Allez.
On y va.
Allez, plouf.
C'est pas la première fois qu'on en parle sur Onde de choc. Oui, il y a une lecture. Madame a pris le risque de faire cette lecture.
Très, très bonne.
Oui, c'est une bonne lecture.
Oui, c'est très agréable.
Et moi, j'ai eu du mal à vous inviter parce que je ne savais pas comment prendre le texte.
Je l'ai senti.
Parce que lire un texte, on peut le faire. L'aimer ou pas l'aimer, c'est autre chose. Mais comment on peut le faire? Et là, vous avez fait une très grave erreur parce qu'on a eu un petit échange épistolaire tous les deux. Et en quatrième de couverture, c'est marqué écrire la vision instantanée. Un cycle du sperme, un cycle de la pisse, un cycle de la merde. Et moi, je vous ai répondu, mais c'est pas mon domaine. Et vous m'avez répondu, mais Pasolini s'est tourné là-dessus.
Avec Salo.
Oui, vous l'avez vu, Salo, le film.
Oui, oui.
D'accord.
Oui,
oui. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une souvenance de Salo?
De Salo, oui. C'est un film d'une violence, je trouve, vraie, parce que ça bouscule. Et moi, j'aime bien.
D'accord.
Et puis alors là, voilà bien un film qui bat en... qui met à mal tous les principes et plein de choses avec... de façon effrénée, et c'est Pasolini, quoi.
C'est Pasolini, voilà.
Mais Verlaine, quand il a écrit son poème avec un peu de merde et de fromage...
Ah, très bon poème, oui. Merci, on a les mêmes références, c'est très bien.
C'est quand même déjà
un bon début. Du Pasolini, non?
Oui, Pasolini m'a marqué à vie, surtout avec Théorème, en fait, que j'ai vu quand j'étais adolescent.
Ah, bravo.
Et avant de voir Théorème, je connaissais rien au cinéma, et d'ailleurs, je me demandais pourquoi on appelait ça le 7e art, puisque j'avais vu des films jusque-là qui étaient plutôt de l'ordre du divertissement. Mmh. Et là, je tombe sur Théorème de Pasolini, et là, je comprends. Et j'ai l'impression que j'ai pensé pendant ce film, peut-être pendant 2 ans, sans non plus pouvoir en parler, savoir dire ce que j'avais ressenti. Et donc c'est un réalisateur en général que j'admire beaucoup. Ensuite, dans sa filmographie, Salo ou Les 120 journées de Sodome, je dois dire que je m'attendais à un truc tellement fort, tellement violent, tellement choquant, etc., de tout ce que j'avais entendu avant, que j'ai pas été choqué parce que j'ai vu. Et cinématographiquement, j'étais un peu déçu par rapport à Théorème, par exemple.
Ah, alors pour moi, c'est pas un grand film, c'est une interprétation de ça, des 120 journées de Sodome. Hein. Alors on va revenir à la marque,
mais avec un parallèle avec le,
faut le dire,
avec le fascisme, ce qui lui a été totalement reproché par les puristes de Pasolini.
Il faut dire ce que c'est. Salo, c'est ce que la République que Hitler a concédé à Mussolini en 45, alors que c'est la débâcle. Il interprète ce livre de Pasolini. Effectivement, il y a des grosses queues, il y a des immenses queues pendant tout le film. Il y a beaucoup de merde.
Oui.
D'accord.
Oui.
Il y a beaucoup de
comme
merde.
Comme dans les 120 journées d'ailleurs.
Oui. Il y a on est dans le politique. Et là, c'est ce que je vous ai répondu, monsieur Alamarck, que là, ces polaroïdes arrivent à sec, comme j'allais dire, à sec. Ils arrivent à sec comme ça, sans rien autour.
Oui, c'est vrai. Parce que pour moi, tout mon travail consiste à dire avec les mots les plus précis le vrai. Je suis peut-être anti-littérature. Je cherche à faire une littérature de degré zéro. Et donc, ça en fait partie.
Vous savez très bien, vous savez très bien que c'est faux. C'est pas du tout une littérature de degré zéro. C'est une littérature qui est extrêmement ciselée et travaillée.
Quand on dit le mot bite, on dit le mot bite, on ne dit pas autre chose.
Il y a aussi que Ulysse a 100 ans cette semaine, un truc comme ça. Le mot bite, on le dit depuis 100 ans en littérature.
Oui, mais il choque peut-être encore aujourd'hui.
Ah ça, c'est ce qu'on va voir. C'est l'objet de...
Tout mon travail est de choisir des mots simples et des mots les plus directs, et de faire une littérature directe. Bon, moi, je travaille pas mal sur la pulsion, d'où l'emploi de la poésie, beaucoup. Et là, des petits fragments, des petites scénettes que j'ai appelées polaroïdes. Et pour moi, le polaroïde, c'était le principe, c'est ça, c'est d'être le plus près de la zone sexuelle. Voilà. Être le plus près du corps, être le plus près de la jouissance, et de le dire avec les mots vrai. Et de ne pas tourner autour du pot.
Vous aviez un ami, je crois, que vous avez rencontré, c'est Bernard Noël.
Oui, oui, d'accord, oui, tout à fait. J'ai fait un petit essai sur Bernard Noël. On a eu une correspondance depuis les années 92, exactement. C'était plutôt moi qui lui écrivais et lui qui me répondait, mais je le sollicitais assez peu. Mais toujours est-il que ça a duré jusqu'à sa mort.
Ça vous inspire, Virginie Bernard Noël, non ?
Oui, bien sûr. Ben, je pense au Château de Seine qu'il a écrit sous pseudonyme.
Oui, alors,
et puis il y a
sûr.
Ses textes plus récents aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois.
Il est là.
Ah, mais l'édition originale, d'accord. C'est avec un autre nom.
D'accord, oui, bien sûr. Ah, oui. Alors il faut peut-être dire que par rapport au livre d'Alain Marc, ces gens-là, Noël, prend un risque, puisqu'il faut, qu'ils prennent un autre nom. Et je pense que le livre est condamné, non, Alain ?
Il a été condamné, oui, oui, absolument. Bernard Noël a eu des soucis
avec ce livre. De la réédition. Où Jean-Michel Plache avait choisi de finalement mettre son nom avec son accord, en pensant que les années étant passées, ce serait peut-être moins risqué à cette époque de la réédition. Et en fait, non, il a quand même eu un procès.
Oui, 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 oui. C'est un des derniers procès pour outrage aux mœurs.
Il y avait
68.
Oui, il y a André Ardelès ou Giscard dans Lourdes-Lantes. Il est condamné par la je ne sais pas quelle chambre à verser des dommages et intérêts ou une chose comme ça. Et pourtant, quand on le lit. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. Mais je veux dire que le risque que vous prenez avec Polaroid, il y a peu de risques là.
Il y a encore un risque, c'est par rapport à ses proches, par rapport aux gens qu'on croise, ou etc. C'est quand même un livre. Bon, même on m'a dit ce livre, il faut le vendre sous le manteau. On m'a encore dit ça. On m'a dit non. Il provoque des réactions quand même. Bon, il est assez fort. Je sais que Pierre Bourjade les adorait. Moi, j'ai rencontré Pierre Bourjade, qui, à l'époque, habitait à 15 kilomètres de Beauvais. Donc, Pierre Bourjade a aimé écrire Le Cri. Il l'a soutenu, aussi par une préface. Et donc, je lui dédie ces Polaroïdes. J'ai oublié la question, mais que dire d'autre
Qu'est-ce qui peut... Non, la grande question, aussi bien pour la performance, on va y venir, pour la performance, etc. Comment on peut encore choquer quelque chose ? Mon ami Jimmy Gladiator me disait, il y a très longtemps, il me disait, la seule chose qui peut encore choquer, c'est s'en prendre à l'enfance. Mais même si la pédophilie n'est pas admise, il y a des procès, on sait que ça existe. Mais donc j'ai envie de dire que en comme ça là c'est passé dans les mœurs entre guillemets, mais on sait que ça existe, on sait que ça existe. Le seul personnage que j'ai vu qui a choqué c'est un peintre qu'on appelle le peintre Natto. Je sais pas si ça vous inspire, le peintre Natto,
oui,
qui fait des performances, très grand type, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il prend des femmes d'un certain âge ou d'un âge certain, en guise de performance, et il les balade. Des femmes qui ont 80, 85 ans, etc. Et là, j'ai vu des gens confrontés à la déliquescence de la chair, quitter la salle ou se sentir mal. Voilà.
Oui.
Mais ces dames-là se laissent balader volontairement.
Volontairement, non, c'est muses. Il a pour muses des dames qui ont 80, 85 ans.
Ça, c'est le problème du regardeur.
Et j'ai vu des femmes sortir. Oh, bien sûr, des femmes sortir parce qu'elles se sentaient mal.
C'est autre chose.
On est dans la vie. Je rebondis sur deux choses là, qui me viennent par rapport à ce que tu as dit précédemment. Si on revient au mot bid, bon, c'est un mot qui est courant, qui est employé, mais tout dépend comment on l'emploie. Quand on dit je t'en parle, et puis si le mobite est à côté, bon, évidemment que ça prend une autre tournure. Tu disais aussi, et ça m'a interpellé un petit peu, que dans ces Polaroïdes, il n'y avait pas de politique.
Non, c'est pas moi qui l'ai dit.
J'ai dit après,
puisque vous avez posé la question par rapport à Pasolini.
Moi,
je pense que toute écriture est politique.
Absolument, absolument. Mais je ne mélange pas une politique sur ce qui se passe aujourd'hui, etc. D'ailleurs, on se disait comment encore choquer aujourd'hui. Bon, ce livre-là, moi, je ne l'ai pas écrit pour choquer. Mais comment dire, ce que j'ai à dire, c'est qu'il a été écrit il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que je cherche à le publier. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Guillaume Basquin, qui est son éditeur, m'a dit, tu as écrit quelque chose...
Il faut dire l'éditeur, dis que l'éditeur, parce que je l'ai pas
l'éditeur
dit.
Qui est Tinbad, les D'accord. éditions Tinbad, hein, dans la collection texte. Guillaume Basquin, donc, m'a dit, tu as écrit quelque chose d'indépassable. Alors ça m'a un peu surpris quand même, questionné aussi, parce que je pense pas que ce soit totalement vrai. Mais pour moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même un livre fort.
D'accord.
Bon, hein, et pour moi, c'est le livre... Le plus important pour moi, j'ai publié une vingtaine de livres, c'est Écrire le cri, qui est le premier que j'ai publié, et c'est celui-ci où je viens te revoir 20 ans après.
Je ne sais pas si Ghislaine a une très bonne mémoire, mais lorsqu'on a fait l'émission Miroir au Mont Miroir, elle a eu une réflexion, quelque chose qui était juste, qui était hors micro, qui est venu.
Au moins une chose.
C'était la seule chose, c'était exactement la seule chose. C'est pour ça que je vous ai demandé de revenir et vous pouvez recommencer. J'ai dit de façon à Christina, de façon directe, comme ça, je lui ai dit, mais il ne fait pas bander. Ça voulait dire qu'il y avait un travail intellectuel. C'est ce que vous avez dit hors antenne, c'est-à-dire que c'était quelque chose de différé. Et quand on lit Monsieur Alain Marc, effectivement, c'est pareil. Moi, je vais vous dire, c'est très intellectuel. Francis Ponge a écrit le parti pris des choses, mais là, c'est quasiment le parti pris du sexe ou le parti pris de la bite. C'est-à-dire qu'on est dans le langage.
Oui.
Enfin, on peut faire les deux en même temps.
Oui, alors, on peut faire les deux en même temps. À partir du moment, Ghislaine, à partir du moment où on cherche une excitation directe,
bien sûr,
littérature
bien
populaire, celle que j'adore à deux balles, qu'on vend effectivement sous le manteau, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour exciter le passant.
Oui, c'est exciter surtout celui qui lit pas. Parce que du coup, l'intérêt, c'est d'avoir double plaisir. Le plaisir d'une belle lecture et de sa suggestion.
Quand quelqu'un qui écrit aussi bien que Bernard Noël écrit « Attendre, je vois des mille pattes au fond de mon ventre et leurs pattes deviennent les cils d'un gros orteil rouge. Ta main est sous mes couilles, ta main arde, pas encore, de pas bander, encore. Une bulle de silence se gonfle autour de nous, tu fouilles mes fesses et j'imagine que moi aussi j'ai fait là une grande bouche et toi, sous ma main, tu frémis et des poules fleurissent au bout de mes doigts pour répondre à tes palpitations. » On est dans le langage.
Oui,
en t'écoutant... Moi, il vous bondissait qu'on écoutait ça, monsieur.
Non, je ne te demande pas non plus en écoutant.
Et vous voyez qu'on est purement dans le langage. On est dans un mot que vous n'aimez pas, on est dans le lyrisme.
Ah oui, ça, j'aime pas ce mot-là, ça,
oui,
c'est sûr.
On est dans le,
c'est sûr,
on est
parce
dans
que
le lyrisme.
Pour moi, c'est quand même quelque chose qui cogne, quoi. Ça.
Ouais.
Bon. Alors, c'est vrai qu'on est encore avec des mots, mais ces mots-là percutent, comme un uppercut que tu te prendrais en pleine figure. Bon, c'est vrai qu'un est-ce qu'un uppercut fait bander ? Je ne pense pas.
Ça dépend.
Hein ? Bon, c'est tout le paradoxe, parce que quand on utilise le mot bite, est-ce que on est direct, ou est-ce qu'on est dans la métaphore, dans le lyrisme ? Moi, je pense pas qu'on est dans le lyrisme, on n'est pas dans la métaphore, on est dans le contraire de la métaphore. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas parce que on est tout près de la zone sexuelle qu'on fait bander.
D'accord. C'est vrai. Mais me dites pas que votre langage n'est pas un langage hyper travaillé.
Ah, il est travaillé,
voilà,
oui, absolument.
Donc
il est travaillé au niveau rythme.
Il est hyper travaillé, c'est un exercice de langue.
Oui, mais il y a langue à langue, parce que moi, je ressens une force. Je ne parle pas de ce texte-là, je parle par exemple de Bernard Noël, ressens aussi une force en le lisant. C'est pour ça que je l'ai intégré dans mes écritures du cri.
D'accord. Je veux dire que quand on regarde Sade, on est dans la philosophie dans le boudoir, vous la connaissez tous, la philosophie dans le boudoir. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une immense orgie, une immense partouze. La présidente, elle dit, monsieur, paraît-il qu'il y a un libelle magnifique dans Paris qui est en train de se promener. Il est en train d'enculer un jeune homme, il arrête. Et pendant 40 pages, il nous fait français encore en effort. C'est le texte athée le plus superbe. Bon, il y a quelque chose. Quand on prend Ardelais est lourdelante, même s'il a des fantasmes des fois de français moyen avec ces histoires de branleuses automatique et d'hôtesse de l'air, on est quand même dans la mélancolie. Pareillement pour ça, on est dans le lyrisme. Tandis que là, c'est le langage beat. Alors j'y vais, le langage beat pour le langage beat. Pas B-E-A-T, le langage beat pour le langage beat.
Alors, j'ai du mal à te contrer sur ça, parce que je reviens 20 ans en arrière.
Vous pourriez revenir.
Bon, parce que tu m'avais fait la même... Enfin, bon, oui, on se tutoie, on se vouvoie.
Oui, le succès m'a pas grisé.
Bon. On a vu la même discussion sur écrire le cri et au niveau de Joyce Mansour.
Ah,
et tu avais qualifié Joyce Mansour de lyrique. Et moi, je t'avais... Pour te répondre, je n'avais trouvé que cette réponse, c'est-à-dire de lire Joyce Mansour. Ouais. Et après, tu m'avais encore dit, mais on est en plein dans le lyrisme. Je me souviens très bien. Bon. Alors, peut-être que tu dis, mais ça ne fait pas bander. C'est vrai que quand on utilise les mots crus, peut-être que ça ne fait pas bander. D'ailleurs, je le pense. Mais quand on utilise la métaphore, pour bander, il faut que ça vienne lentement. Il faut que ça monte progressivement. Et là, c'est vrai que l'objectif n'est pas de bander. L'objectif est peut-être d'interpeller la psyché. Moi, ce que j'ai voulu, c'est tuer la pudeur.
Alors, Alain,
c'est ça.
Je vais te dire tu. Oui. Si tu veux interpeller ma psyché, t'es tué dans l'intellect.
Bien sûr.
Dont ton texte est un texte intellectuel. Bon, ce qu'on va faire. Alors là, Alain, je vais te pardonner si tu ne reconnais pas ce que je vais lire. Par contre, si Monsieur Virgile ne reconnaît pas, vous prenez la porte tout de suite, Monsieur Virgile, je tiens à vous le dire. Et on va faire ça, je vais faire une petite lecture,
on
va écouter un tout petit morceau de musique, et après on va tourner le livre. Alors, ce qui manque le plus à notre époque de consommateurs fiévreux du sexe, au moins de consommateurs de ces images, des rêves et des fantasmes qu'ils suscitent, sinon de sa réalité même, c'est une érotologie. On croit que la sexologie en tient lieu, mais cette science récente, dont le nom a été inventé en 1931, est une discipline plus paramédicale qui a surtout pour but de traiter des déficiences sexuelles. Là, je saute, voilà. Et c'est là. Il y a un brin d'humour. C'est bien, Monsieur Virgile, c'est parfait. Vous pouvez rester, j'ai l'impression. L'homme doit se retirer sans avoir éjaculé. Comme dans le yoga tantrique, ce qui est une difficulté pour beaucoup. Une des sensations typiques du coït masculin est celle de l'inévitabilité de l'éjaculation. On peut différer celle-ci quelque temps, jouer même avec sa venue imminente, mais l'instant arrive où elle est inévitable. On a beau résister de toutes ses forces, elle jaillit. Il faut donc savoir s'arrêter une seconde avant le seuil d'inévitabilité, quitte à reprendre ensuite son action. Le taoïsme, recommandé par divers procédés de résistance à la jouissance inévitable, la femme, sentant que l'homme va éjaculer, peut, Monsieur Lamarck, écoutez bien ça, lui pincer le point pingui à 3 cm au-dessus du mamelon droit. Ou encore, l'homme tend son esprit vers une image de soleil et lune en conjonction, c'est-à-dire qu'il imagine une essence lumineuse rouge à l'extérieur, jaune à l'intérieur, qui va et vient de son abdomen à sa tête. Ayant moi-même fréquemment pratiqué le coït sans éjaculation par assez amoureux, je puis dire que ma meilleure recette contre l'inévitabilité est de faire le vide total en soi. Voilà. Monsieur Virgile.
J'ai reconnu Sarah Alexandrian.
D'accord. Non, mais faut pas exagérer. Ce qu'on va faire, on va écouter un tout petit peu de musique. On dit, je précise, et puis on fait trois. Capable de dire trois mots sur Sarah?
Avec plaisir.
D'accord.
Karategin est passé chez Tikakiev et ne l'a pas trouvé chez lui. À ce moment-là, Tikakiev était au magasin et achetait de la viande, du sucre et des concombres. Karategin force la porte de Tikakiev. Karategin force la porte de Tikakiev. Karategin force la porte de Tikakiev. Et commence même à lui écrire un petit mot. Quand soudain, il voit Tikakiev qui revient chez lui portant un sac à provisions. Karategin se tourne vers Tikakiev. Karategin se tourne vers Tikakiev. Karategin se tourne vers Tikakiev. Et lui crie: ça fait une demi-heure que je vous attends. C'est fou, dit Tikakiev. Je suis sorti de chez moi il y a 25 minutes. Ça, je ne sais pas, dit Karategin. Seulement que je vous attends depuis une demi-heure. Vous ne dites pas la vérité, dit Tikakiev. C'est un honteux mensonge. Votre Excellence, Monsieur le Ministre, dit Karategin. Veuillez mieux choisir vos expressions. Je compte bien, dit Tikhakiev, mais Karatine ne coupe. Ah, si vous comptez bien, dit Karatine, mais Tikhakiev le coupe. Je compte bien, dit Tikhakiev, mais Karatine ne coupe. Ah, si vous comptez bien, dit Karatine, mais Tikhakiev le coupe. Je compte bien, dit Tikhakiev, mais Karatine ne coupe. Ah, si vous comptez bien, dit Karatine, mais Tikhakiev le coupe. Je compte bien, dit Tikhakiev, mais Karatine ne coupe. Ah, si vous comptez bien, dit Karatine, mais Tikhakiev le coupe. Et dit, et vous-même, espèce de bon moi. Ces mots ont tellement mis en rage Karatine qu'il s'est bouché une narine et avec l'autre a éternué sur Tikhakiev. Alors Tikhakiev a sorti de son cabas un concombre et on a tapé sur la tête Karatine. Karatine est tombé à terre et il est mort.
Merci Monique. Qu'est-ce que je ne serais pas sans vous, ensemble, pour écouter ça. Daniil Arm, c'est un poète russe, victime du stalinisme, qui est mort en camp de... comme pas mal d'autres. Je ne sais pas si c'est des morts là-bas en Sibérie, mais c'est le même sort, hein, à peu près. Hein. On en était à Saran, on peut dire, oui, alors Saran Alexandrian.
Oui, un grand écrivain érudit qui a fait partie du groupe surréaliste après la guerre et qui était notamment, c'est vrai, un spécialiste de l'érotologie. Et donc, il a écrit plusieurs livres sur ce sujet, dont Le Doctrinal des jouissances amoureuses, qui est très intéressant et qui m'avait dédicacé en disant pour Virgile, ce livre dont paraît-il la lecture est aussi utile qu'agréable. Et puis il a écrit La magie sexuelle, il a écrit une histoire de la littérature érotique. Et puis un de ses derniers livres, c'était un livre qui s'appelait La sexualité de Narcisse sur la masturbation. Et donc il se trouve que Saran Alexandrian était mon grand-oncle et que je lui dois beaucoup parce qu'il a vraiment changé ma vie. Je l'ai connu assez tardivement, en 2001, oui, je me souviens, j'ai rencontré en 2001, alors que c'était mon grand-oncle, parce qu'il avait aussi écrit un livre sur le sommeil, qui s'appelle « Nuit étroitement surveillée », qui s'appelle, pardon, « Le surréalisme et le rêve ». Et lisant son livre, je savais que c'était mon grand-oncle, je lui écris, et on s'est rencontrés. Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai compris, par exemple, la démarche de Pierre Pinoncelli, puisque c'est en lisant un article de Saran que j'ai compris que ce geste de détruire l'urinoir de Duchamp n'était pas le geste d'un fou ou de quelqu'un contre l'art contemporain.
Et en fin de compte, il a fait votre éducation.
Oui, c'est vrai.
Bravo, Saran, c'est pour en arriver là. C'est quelque chose de bien. Alors, ce texte que j'ai lu, c'est Introduction à la nouvelle érotologie.
Oui. Hein,
c'est dans Supérieur inconnu. Voilà, je connais ce texte d'autant plus que, alors, je vais te prendre des gants et des pincettes, là. J'avais une très grande amie, quelqu'un qui est très, très, de très, 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 très bien, qui a fait une lettre parce qu'elle était offusquée par le texte de Saran. Et Saran, qui avait la plume très facile, faut dire aussi, hein, il a fait une lettre dans le grand style surréaliste en se réclamant de la grande tradition de bataille, d'Henri Miller, etc. Voilà comment je connais ça. Voilà. Donc, on trouve dans Alain Marc, Polaroid, texte poésie instantanée, peinture de Jean-Marc André, édition Timbats.
Oui, d'accord, il faut en parler un petit peu aussi de Jean-Marc André.
On va le faire à la fin. Capitulaire. C'est pour ça que je vous ai réunis tous les deux avec là, parce qu'il y a le mot performance. À la fin, il y a le mot performance. Hein. Après la performance à l'intérieur du local prévu à cet effet, les deux corps nus glacés par le froid s'exposent tous deux, offerts à toutes les volontés des convives. Le corps de la danseuse, sexe et bouche ouverte, est posé sur une chaise d'école, tandis que celui du danseur, sexe dressé, est accroché par les mains à un crochet à bestiaux, pieds solidement fixés au sol, corps à corps, corps sur corps. Les convives, femmes, sont invités à relever leurs jupes. Les convives, hommes, à dégrafer leurs pantalons, enfourchement de la bite saillante, au sort de pieux et saillie, ou l'inverse. Le spectacle peut, à ce moment, être consommé. Voilà, ça c'est de la performance.
Ah, ça c'est un texte. Donc, les Polaroïdes, ils sont découpés en quatre parties. Il y a d'ailleurs les Polaroïdes qui sont des petites scénettes, il y a les poésies érotiques, là on est dans la poésie et dans le travail du rythme, c'est vrai qu'il y a un travail. Après, il y a des instantanés, qui sont aussi des petites scénettes, mais un peu différentes. Et là, ce que tu viens de lire... Et dans la partie qui s'appelle pornographique pour la faim et ou érotique pour la soif. Et donc là, c'est vrai que le texte, tu viens de lire la fin, est issu de... Je l'ai écrit après avoir vu une performance à côté de Clermont-de-l'Oise. Et donc, c'est vrai que c'était deux danseurs qui dansaient nus en plein mois de décembre, en extérieur, autour d'un feu. Et ça m'a donné cette petite variation qui est plus que coquine par rapport à ce qu'on a vu. D'accord. Voilà.
Donc, il y a quelques années, dans les années, il y a très longtemps, alors, il y a très longtemps, Julien Blaine m'avait dit, tu comprends, la performance, tout le monde sait ce que c'est. On est dans les années 80. C'est vrai que à Beaubourg, la performance, tout le monde faisait de la. J'ai envie de dire même que la performance, c'est quand même un art. C'était un art officiel quelque part, voilà. Moi, ça m'a pas jamais beaucoup intéressé, à part certaines, celle de Pignoncelli, celle de Journia qui est plus chère. Hein. Là, il y avait un risque réel, et puis il y avait aussi effectivement un engagement politique. Ça vous inspire, Joignard, qui est plus char ou pas, vite fait?
C'est, non.
Plus. Il en parle. C'est bien d'avoir fait un film sur Pignoncelli, monsieur. Il en parle dans le film.
Ah bon?
Il parle à un moment de Journiac, c'est celui qui.
Journiac, oui, bien sûr.
D'accord, plus char, c'était l'amant de Journiac.
Ah, d'accord, je connais Journiac.
Il faut suivre, Très bien. Il faut suivre.
Donc, oui, bien sûr, donc, il avait fait du boudin avec son propre sang. Oui, et il avait fait ça pour un vernissage où les gens pouvaient carrément le manger. Donc, c'est vrai que dans l'idée de prise de risque et de choc. Là, il a été très loin, Journiac. Et donc, Pignoncelli dit en rigolant qu'il était un peu jaloux de cette performance et qu'il était malade de ne pas y avoir pensé.
Dans le film, d'avoir mangé le boudin.
Non.
avec une messe noire, c'est quand même des gens qui sont de formation religieuse au départ. Hein. Ça, faut le dire aussi.
Oui, bien sûr. Ben, c'est vrai que c'était une autre époque. Et avant, l'époque de Pignoncelli, qui est né donc en 1929, son éducation s'est faite en partie dans des établissements religieux. Et donc ça l'a marqué à vie, parce que de manière générale, il a développé une allergie à l'autorité. Pignoncelli, d'abord, bon, à l'autorité de ses parents, ensuite à l'autorité de ses professeurs, puisqu'il s'est fait renvoyer d'établissement en établissement pendant toute sa scolarité. Ensuite, il a été allergique, c'est vrai, à la loi, à la police, et toutes ses performances quasiment se sont terminées par des arrestations, des procès, des amendes, bon, aussi des blessures. Et je crois aussi qu'il était d'une certaine manière allergique à l'autorité du monde de l'art, puisqu'il a même choqué le monde de l'art en faisant des performances. Et de manière plus métaphysique, je pense qu'il était même choqué, enfin allergique à l'autorité de la mort, puisqu'il a voulu frôler la mort plusieurs fois.
Ça, on va le voir. Dans le film, parce que je pense que vous vous souvenez de ce qu'il y a dans le film quand même, un personnage dit, une dame, je crois, corrigez-moi, dit que le Ben était jaloux de Pignoncelli.
Oui.
Voilà. Et pour moi, Pignoncelli, c'est l'anti-Ben.
Oui, alors c'est vrai qu'ils se sont vraiment... Ils ont divergé tous les deux. Ils étaient amis dans les années 50-60. Et ils ont même participé ensemble à des festivals de performance où ils se sont entraidés. Par exemple, au festival Sigma à Bordeaux en 1969. Et c'est vrai que Ben, à cette époque, n'était pas du tout entré dans le marché de l'art et du gadget et du merchandising comme il l'a fait par la suite. Et c'était une des choses qui les différenciait totalement. C'est que pour Pignoncelli, il fallait surtout ne pas gagner d'argent avec l'art, il fallait dissocier les deux et ne pas avoir cette soumission par rapport à un marché. Alors que Ben, au contraire, c'est vrai qu'en écrivant, en mettant son écriture sur des stylos, des trousses, des emplois du temps, des t-shirts, etc., il est rentré comme ça dans un phénomène de société de consommation, à la fois avec ses œuvres dont il a, je pense, travaillé pour que la cote augmente, et aussi pour tous ses gadgets.
D'accord. Vous voulez intervenir, Alain, parce que je vous ai vu chercher dans votre livre, là, parce que vous avez une argumentation.
Pour
là.
Tout à l'heure.
C'est tout à l'heure.
Je mûris.
On reviendra sur l'illustrateur, hein, puis on verra sur le principe de l'amour aussi.
Puis peut-être un peu sur le lyrisme. J'ai envie de remettre ça sur le tapis.
Mais on va se venger, voilà. Et sur l'amour aussi, parce que Château de scène, il y a des scènes d'amour. Hein. Là, on peut pas dire que dans Polaroid, on passe par l'amour. Oui. Bon, bref, vous l'avez rencontré, Pignoncelli.
Oui, bien sûr. Je l'ai rencontré en 2010, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire le film sur lui. Il y avait eu plusieurs étapes auparavant. Donc, d'abord, j'avais entendu parler forcément de sa performance en 2006, quand il a cassé l'urinoir de Duchamp.
Il n'avait pas pissé avant dedans.
Et pas en 2006, non, parce qu'en fait, il l'a cassé deux fois. Et c'est en 93 qu'il a uriné dedans et il l'a cassé. Mais en 2006, il a signé Dada et il l'a cassé. Mais il n'a pas uriné dedans la deuxième fois.
Donc, Virgile, c'est sa performance que tout le monde connaît, il faut avouer. À part la, une des dernières qui va être sa mutilation pour Ingrid, on va dire Bettencourt, on va voir si c'est utile, on va voir si c'est pas de l'exhibitionnisme un peu, etc. Mais il y a certaines qui viennent au préalable. Je crois que vous avez vu dans le film Ghislaine là, qui sont hilarantes, hein, aussi bien l'histoire du tonneau quand il se promène à poil dans son tonneau pour Diogène, et puis surtout là, ça vous allez la raconter parce qu'elle est bonne, c'est le hold-up.
Ah oui, alors ça, c'est Pinoncelli, effectivement, a fait une performance artistique qui a pris la forme d'un véritable hold-up, sauf que c'était pas un hold-up pour l'argent, c'était un hold-up contre l'apartheid. Il l'a fait en 1975, il habitait à Nice à ce moment-là, et la ville de Nice était en train de se jumeler avec le Cap en Afrique du Sud, qui était sous le régime de l'apartheid, et beaucoup de Niçois étaient totalement contre ce jumelage avec une ville qui avait des lois racistes. Donc, il y a eu beaucoup de pétitions. Ça n'a rien changé pour l'état d'avancement du maire pour ce jumelage. Il y a eu des manifestations et puis ça ne changeait rien. Et finalement, comme Pinoncelli et beaucoup de gens savaient que la Société Générale avait des intérêts financiers dans ce jumelage, Pinoncelli a décidé de braquer une agence de la Société Générale avec un vrai fusil, un canon scié. Il est entré avec une tête de mort, une cartouchière, un cône de signalisation qu'il a utilisé comme porte-voix. Il avait des gants et un sac pour mettre l'argent. Et là, il s'est fait conduire en taxi à la Société Générale. Il rentre dans la banque, il tire deux coups de feu dans le plafond et il va au guichet. Et là, il dit une phrase des pieds nickelés. « Oh les mains, bande de connards, c'est un hold-up. » Et il demande juste... Alors, il avait hésité entre 1 franc et 10 francs. Il a demandé 10 francs.
D'accord. N'empêche qu'il se met en péril et en situation. Il ferait ça maintenant, il risquerait de prendre une balle perdue. Hein,
déjà à l'époque, on peut dire que déjà à l'époque, il a risqué de mourir pendant cette performance. Oui. Puisque j'ai eu la chance de retrouver un policier qui l'a arrêté pendant ce hold-up.
Ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a fait beaucoup rire. Vous avez vu Ghislaine, le policier, là.
Et ce policier m'a expliqué qu'à l'époque, en 1975, les banques n'étaient pas sécurisées comme aujourd'hui. Et donc, lui faisait partie de la brigade anti-hold-up. Donc, il sillonnait la ville. Il y avait deux escadrilles comme ça de motards. Et quand un banquier ou un caissier appuyait sur le bouton rouge, ils arrivaient pour interpeller. Et si le malfrat avait tiré des coups de feu dans la banque, le protocole des policiers, c'est qu'ils avaient le droit de tirer. De préférence dans les jambes. Donc là, Pinoncelli, il avait tiré dans la banque. Le policier avait le droit de lui tirer dessus. Heureusement, il est sorti, Pinoncelli, en douceur, avec le fusil sur l'épaule. Et là, il s'est fait arrêter. On lui a mis quand même le pistolet sur le cou. Mais il aurait pu déjà mourir. Donc, il avait une lettre d'explication sur lui, au cas où, pour expliquer que ce n'était pas pour l'argent, mais contre l'apartheid.
Petite parenthèse, parce que je ne l'ai pas fait, Virgile. Il a commencé par la peinture.
Et Pinoncelli, exactement, a d'abord exprimé sa révolte par la peinture.
Vous avez vu ses toiles ou pas ?
J'ai vu ses toiles, je les ai beaucoup appréciées. Je trouve que c'est des toiles qui ont une très très grande force. Et donc, je trouve que ces différentes séries de peintures sont un peu une pièce essentielle dans le puzzle Pinoncelli.
Et elles sont pas mal, moi je les ai vues, elles sont pas mal du tout.
Oui, il y a une série qui s'appelle 40 morts.
40 morts, c'est celle-là.
Et donc c'est des toiles similaires qui représentent toutes un mort, mais de couleurs différentes. Et donc c'était déjà, on peut dire, une sorte d'installation, puisqu'on arrivait dans la galerie La Cloche en 1969, et on voyait 40 toiles, format un peu cercueil, qui montraient chacune un mort. Et donc c'était déjà l'idée un petit peu de choquer les gens, de les faire
donc,
réfléchir, et de dialoguer avec la mort.
De quoi ils vivaient?
Eh bien, en fait, il a eu tout simplement un métier très classique. Il a travaillé en entreprise comme cadre commercial, et parce qu'il voulait dissocier vraiment l'art et l'argent. Et pour lui, il voulait surtout pas, par exemple, qu'on l'accuse de faire des performances pour vendre ses peintures. Donc, quand il a fait des performances, il a arrêté de peindre. Et donc, il était cadre commercial dans une entreprise de graines qui s'appelait Blinco à Saint-Rémy-de-Provence. Et ce qui est amusant, c'est que, en fait, le patron l'a invité, l'a embauché, je veux dire, sachant qu'il était performeur. Il avait de l'admiration pour lui. Et donc, quand Pinoncelli était parfois absent et tout d'un coup on apprenait qu'il était en prison, par exemple, quand, pour le braquage de la banque, son patron a été le voir en prison. Il a dit, mais c'est génial ce que tu as fait, c'est incroyable, etc.
Ghislaine, vous qui avez vu le film, là, comment vous connaissiez ou pas de Pinoncelli?
Alors, de nom, oui, parce que c'est quand même un nom qui circule dans le milieu de l'art. Par contre, je n'en savais pas autant.
D'accord. Et qu'est-ce que vous en avez pensé en sortant
du personnage. Du film. Ah, du personnage.
Le film est nul à chier. Gisèle.
Ah oui, non, mais il a pas de talent du tout. Je sais pas ce qu'il.
On sait même pas ce qu'il raconte.
Pinoncelli, c'est quelqu'un de très attachant, je trouve, parce qu'il est. Il n'y a pas de forfanterie, finalement. Il prend les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la plupart du temps des cons. Et il le dit. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il a une façon de s'amuser de lui-même, mais par contre, pas forcément si l'humour est le résultat. On n'a pas l'impression que ce soit quelqu'un qui rit.
Vous n'avez pas l'impression qu'il a il y a quand même un côté enfantin. Non, mais au bon sens.
Moi, je le trouve pas. Faut que je revoie le film mais j'ai pas senti d'enfant.
Quand il braque la banque à 10, il cite les pieds nickelés. C'est l'enfance qui est là, non ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que pour lui, il a toujours espéré rester dans l'enfance grâce au happening, grâce aux performances, grâce à l'art, même si pourtant ça prend des formes très choquantes, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'un enfant à un certain âge, peut-être 6-7 ans, ça l'amuserait de braquer une banque, ça l'amuserait de se mettre comme une momie vivante et d'aller dans la rue et de faire peur aux gens. Donc c'est très enfantin, mais quand c'est un monsieur qui, par exemple, pour Diogène, quand il était tout nu dans un tonneau à Lyon, à 74 ans, elle se met tout nu dans la rue face aux gens. On a du mal à imaginer.
L'intention n'y est pas chez les enfants. L'enfant s'amuse. L'adulte a une intention. Oui. Il y a un message. Oui, il ne le fait pas pour rigoler. Non. Enfin, si, éventuellement, mais c'est surtout qu'il a quelque chose à dire.
Il a fait ça pour deux raisons. D'une part, c'était un hommage au philosophe Diogène, donc vivre dans un tonneau. Mais aussi, c'est vrai que, pour interpeller les gens par rapport à la banalisation des SDF dans les villes. Et c'est vrai qu'en 94, déjà, ça commençait à se répandre. Les gens s'habituaient, finalement, en faisaient peu de cas. Alors que pour Pinoncelli, il fallait un petit peu, justement, remuer les gens en les choquant pour faire ça. Et les performances de Pinoncelli continuent après l'arrestation, c'est-à-dire que quand il a été au commissariat pour la performance de Diogène, on lui demandait son nom, il répondait toujours « Je m'appelle Diogène ». Et donc, finalement, il a pu sortir parce que quelqu'un l'a reconnu, mais je veux dire, il allait vraiment jusqu'au bout de ses actions.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous savez ?
Oh, moi, j'avais juste cette réflexion sur les enfants. Les enfants comprennent très tôt les adultes. dans l'autre sens, il y a des choses vraies.
Et les enfants sont cruels, et les enfants, oui, c'est vrai. Oui.
On finira par le livre à la marque, il n'y a aucun problème. Il y a deux éléments sur lesquels je voudrais revenir. Moi, c'est son rapport à André Malraux, qui est quand même fondamental, parce que on va revenir à quelque chose. Payez-vous un ministre aujourd'hui ? C'est peut-être pas le même contexte.
Oui, exactement.
Et puis on va finir, avant de revenir à Alain Marc et à Polaroid, on va quand même finir par le doigt à couper. Vous n'avez pas assisté à la scène ?
Non, le doigt coupé, ça a eu lieu en 2002. Et moi, j'ai connu Pinoncelli en 2010. D'accord. Par contre, ça a eu lieu en Colombie. Je suis allé sur place et j'ai vu son doigt. Il a offert son doigt à la Colombie, donc qui est toujours conservé là-bas dans un bocal de formol. Je l'ai filmé chez le conservateur du musée.
Vous avez supporté l'image ? Vous avez supporté
l'image ? Et j'ai trouvé donc des archives pour certaines inédites, effectivement, où on voit cet acte. Et donc, ça a été une grande discussion pour moi de le mettre dans le film ou non, tellement c'est effectivement choquant, sanglant, violent. Et c'est en discutant aussi avec Ingrid Betancourt, que j'ai interviewé pour le film, que j'en ai conclu en parlant avec elle que oui, il fallait le montrer.
On va écouter un tout petit peu de musique, on va passer par le Malraux, le doigt coupé, puis on finira par Alain. Ça va ?
Volontiers.
Vous avez vos arguments ou pas sur l'esthétique ?
Oui. On va voir.
Merci Monique.
Ils disent que je suis un monstre. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Mais je ne vais pas en apporter la preuve. Aujourd'hui, ma femme a dit au téléphone à un certain Michou que j'étais stupide. Moi, j'étais assis sous le lit et on ne pouvait pas me voir. Ce que j'ai ressenti à cet instant. Je voulais sortir de ma cachette et leur crier « Non, je ne suis pas stupide !» J'imagine ce que ça aurait été. J'étais assis sous le lit et on ne pouvait pas me voir. Et moi, par contre, je voyais tout ce que faisait ce Michou avec ma femme. Ma femme a de nouveau reçu Michou à la maison. Je commence à penser que je passe au second plan pour ma femme. Michou a même fouillé dans les tiroirs de mon bureau. Moi, j'étais assis sous le lit et on ne pouvait pas me voir. J'étais de nouveau assis sous le lit et on ne pouvait pas me voir. Ma femme et Michou ont commencé à parler de moi en des termes plus désagréables. Je ne l'ai pas supporté. Et je leur ai crié qu'ils n'arrêtaient pas de mentir. Cela fait 2 semaines qu'ils m'ont rossé. Et mes os me font encore souffrir.
Bravo, mademoiselle. Bravo. Eh bien, toujours au 01 43 71 89 40 avec Monique à la technique qui ne veut pas que nous rentrions avec notre verre pour lui dire bonjour. Mais ce n'est pas la première fois. Puis des fois, elle me fait d'autres sévismes. C'est, voilà, rassurez-vous. On est bien avec Pinoncelli, presque. Il est quasiment là, Pierre Pinoncelli.
Oui, et là, hein. Il nous a quittés il y a quelques mois, mais son esprit reste avec nous.
Il est mort quand
Il est mort en mai 2021. D'accord. Et il a vu mon film quasiment terminé. Je suis allé lui montrer. Il y avait sa femme qui était là, leurs 2 fils aussi. Et donc, c'était troublant parce que je montrais un homme de 92 ans, donc qui forcément allait bientôt mourir, un film qui racontait l'histoire de sa vie entière.
D'accord.
Donc, pendant tout le film, j'ai regardé son visage et c'était impressionnant de voir toutes les émotions qui l'ont parcouru.
D'accord. Vous avez été à son enterrement ?
Non, j'y suis pas allé. C'était une date où je pouvais pas. Donc ils
vous
ont
savez
fait
pas
un
s'il y a eu des performeurs qui sont venus ou c'était quelque chose
non,
qui
mais alors ce qu'on m'a dit, c'est que ce cimetière allait peut-être être déplacé. Et donc j'ai vu une sorte de performance ultime de Pinoncelli mort qu'on déplace. Donc si le cimetière est vraiment déménagé, j'irai filmer ça. Ça fera un bonus pour le film.
Alors qu'est-ce qui nous a fait André Malraux là ?
C'est vrai que Pinoncelli et André Malraux ont eu des rapports particuliers. Pinoncelli a fait 2 performances en rapport avec André Malraux. Une seule est dans mon film, parce que j'ai fait un film qui n'est pas exhaustif. Ça montre quand même une trajectoire de son enfance jusqu'aux années 2010. Mais il n'y a pas tout, pour différentes raisons, d'équilibre du film, etc. Et pour Malraux, c'est vrai que, disons que Pinoncelli a été déçu par l'homme politique Malraux. Il l'aimait comme aventurier, il l'aimait comme écrivain. Et quand il est devenu homme politique, ministre de la Culture, il a été tellement déçu qu'il a décidé de peindre sur lui, par surprise. Et donc, je vois ça vraiment comme l'acte d'un peintre qui ne peint plus sur sa toile, qui ne peint plus sur lui-même quand il est devenu l'homme tableau et qu'il a peint son visage et ses vêtements. Et là, il décide de peindre sur le ministre de la Culture, à la peinture rouge. Donc, évidemment, les gardes du corps croient que c'est un attentat, arrêtent Pinoncelli, et là, lui font subir, dans le cadre du procès, des examens psychiatriques. Pinoncelli a été diagnostiqué par 2 psychiatres, Rancoul et Camusard, comme étant hypomaniaque ou hypomane. Oui, exactement. On a l'impression que les pieds nickelés continuent. Exactement. Mais j'ai vu la lettre.
Petite parenthèse avant de continuer, Virgile. Malraux a été en 35-34 dans tous les congrès antifascistes. Hein, ça, on le sait, auprès des surréalistes et auprès de Prévert. Et Prévert avait conservé une admiration, comme Pinoncelli, pour Malraux. Et je sais de sources sûres, parce que je connais quelqu'un qui y était, lorsque Malraux s'est trouvé en 68, ouvrant la manifestation gaulliste, avec toutes les mémères de Neuilly qui étaient là, etc., Prévert n'a pas supporté. C'est là qu'il a rompu avec Malraux, c'était pas possible.
Mais voilà. Donc on vient. Et c'est un an après que Pinoncelli lui a tiré dessus. C'est en 1969, au moment de l'inauguration de la pose de la première pierre du musée Chagall à Nice. Et donc Pinoncelli était d'une certaine manière contre Malraux et aussi contre la peinture qu'il estimait comme une forme d'art dépassée à l'époque et dépassée par le happening, la performance, etc. Et là, ce qui est amusant, c'est de voir la réaction de Malraux qui, en fait, a pris la poire de Pinoncelli dans ses mains et aspergé Pinoncelli aussi en rouge. Et donc, c'était un peu comme un duel où ils étaient tous les deux recouverts de rouge.
C'est magnifique.
Ça, c'est magnifique comme réaction.
Mais Noël Godin, je ne sais pas si vous inspire, mon ami Godin, l'entartreur, lui a quasiment rendu interdit de séjour Bernard-Henri Lévy en Belgique. Chaque fois que Bernard-Henri Lévy, il s'est fait entartrer quatre fois. Et bravo, Bernard BHV, là, réagissait très mal. Très, très mal. Malraux à côté. Ouais. Et je redonne la parole vite fait. Il y avait un interview de Malraux la dernière fois à la télévision, comme ministre de la Culture. Mais à lui tout seul, c'est une performance. Mmh. Hein, parce qu'avec ses tics, avec son langage, il y avait 10 journalistes qui étaient. Mais il n'y avait pas un journaliste qui comprenait ce qu'il racontait. Hein. Il est bourré. C'est extraordinaire. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe après?
Alors, ça, c'était donc la première performance de Pinoncelli sur Malraux, on va dire. Et qui s'est terminée par un procès. Mais Malraux aussi n'a pas porté plainte, ce qui est assez élégant.
C'est très bien.
Et c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si on tirait à la peinture rouge sur un ministre de la Culture. Certainement que les réponses policières seraient beaucoup plus violentes et beaucoup plus rapides.
Comment il s'appelle l'autre là ?
Il n'y en a pas.
Je ne sais pas qu'ils sont en ce moment. Mais...
Vous savez, Alain Marc, vous qui suivez la culture de près, comment s'appelle le ministre de la Culture ?
Absolument pas. J'y pensais hier, je me posais la question. D'accord. Je n'ai pas trouvé.
C'est vrai que beaucoup de ses performances seraient plus possibles aujourd'hui. Et la deuxième qu'il a faite en rapport avec Malraux, c'est quand le cercueil de Malraux a été transporté au Panthéon. Et donc c'était en 1996, je pense. Et à ce moment-là, Pinoncelli décide aussi de faire quelque chose. Et donc, il a fait la queue pour aller au Panthéon, voir le cercueil de Malraux, qui était entouré de l'homme qui marche, de Giacometti, d'une sculpture égyptienne. Donc, il y avait quelque chose de très, très solennel, avec une musique de Messian. Et donc, les gens pouvaient faire le tour du cercueil, et mais avec tout un cordage, des gardes républicains, etc. Et donc, Pinoncelli a franchi la barrière. Il a été sur le cercueil de Malraux, et il lui a lancé une poignée de carambars. Et donc là aussi, c'est référence à l'enfance,
l'enfance
très
ça,
enfantin,
c'est génial.
Et aussi, comme l'Égypte c'était très important pour Malraux, ne pas oublier que les Égyptiens, en tout cas les pharaons, se faisaient enterrer avec des vivres pour faire leur voyage dans l'au-delà. Et donc Pinoncelli lui a donné des carambars pour son voyage dans l'au-delà.
C'est magnifique. Petite parenthèse, le discours de Malraux sur l'introduction, l'entrée de Jean Moulin au Père Lachaise est théâtralement un chef-d'œuvre, théâtralement. Le texte est aussi un chef-d'œuvre, quoi qu'on en pense. Hein. Non, c'est
magnifique. Ah oui, non, mais je suis d'accord.
Là, on est vraiment dans la matière, dans la chair. Hein. Alors, avant de savoir ce que Alain Marc veut dire sur le lyrisme et le lyrique, le plus exhibitionniste, le plus grave, le plus tragique, le plus exhibitionniste, Mlle Ghislaine Verdier n'a pas bronché parce qu'il y a un côté cruel comme ça, mais quand il se coupe le doigt pour Ingrid Betancourt, cette dame qui s'est fait enlever par les FARC en Bolivie, en Colombie, alors, je sais pas, on peut, vous aimiez bien Pinoncelli, vous avez bien un avis. Est-ce que c'est quoi la vie?
Ben, mon avis, c'est que je suis très admiratif devant cette performance qu'il a faite, oui, bien sûr. Parce que là aussi, il ne faut pas prendre Pinoncelli au premier degré, puisqu'il y a toujours plusieurs couches chez lui. Et donc, en fait, Pinoncelli était invité à ce festival de performance à Cali, en Colombie. Et à une époque où les FARC étaient très violents, il y avait beaucoup de kidnapping, d'enlèvement, de demandes de rançon, de trafic d'armes, de trafic d'argent, etc. Et Ingrid Betancourt, qui avait venait de se faire enlever après avoir été élue députée puis sénatrice, en espérant finalement lutter contre la corruption en Colombie et changer les choses, améliorer les choses. Donc Pinoncelli, quand il est invité là-bas, il se dit moi je veux protester contre cette violence des FARC, contre l'enlèvement d'Ingrid Betancourt, et je veux moi aussi souffrir par empathie pour le peuple colombien. Mais il savait pas encore ce qu'il voulait faire, mais il voulait souffrir. Donc il accepte l'invitation au festival Et quelques temps après, les organisateurs du festival écrivent à tous les performeurs qui venaient de plein de pays différents pour leur demander s'ils avaient besoin de matériel, d'envoyer la liste. Et là, ils reçoivent la liste de Pinoncelli qui demande un billot, une hache, une colombe et une ambulance. Et alors le billot, la hache et la colombe, donc ils ont cru qu'ils allaient s'en prendre à la colombe, mais pourquoi une ambulance? Alors là, ils se sont posé des questions. Et en fait, Pinoncelli, c'est en voyant un film qui s'appelle Yakuza, avec Robert Mitchum, où il se coupe un doigt, mais là c'est un effet spécial, c'est du cinéma, il y a un trucage, il s'est dit c'est ça que je vais faire, et que je vais offrir une partie de mon corps à la Colombie.
Il n'y a pas un côté sacrificiel inutile là-dedans? Non, non,
alors... Alors, utile ou inutile, c'est vrai que c'est intéressant comme question.
C'est toujours inutile, non?
Oui, c'est très chrétien aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a probablement pas participé à la libération d'Ingrid Betancourt, qui a eu lieu que 6 ans plus tard.
Comment il sort de scène,
disons que
en fait
pour l'opinion publique, en tout cas, ça a eu un effet assez fort, surtout dans toute l'Amérique latine.
Comment il sort de scène? Il se bande, on voit qu'il se bande le doigt, le sang pisse, il sort de scène, il est...
Oui, alors les organisateurs de performance... Oui, alors après s'être coupé le doigt, il a pris une bombe, il écrit sur le mur de musée F-A-R-C à la bombe, et il asperge le mot Farc de son propre sang.
C'est ça.
Et sans crier, sans même avoir l'air de souffrir, ce qui est assez vraiment incroyable.
Alors, ça c'est dans le film, je trouve que toute sa résistance à la douleur, à chaque fois, est magnifique.
Hein. Ah oui, c'est incroyable, oui, c'est incroyable.
Hein, c'est magnifique. Mmh.
Hein. À la fois, c'est vrai qu'il a une résistance à la douleur très impressionnante, et aussi, il n'a pas peur de la mort, puisqu'il l'a souvent frôlé dans ses performances. Et je pense que les deux sont liés chez lui.
Il s'est fait enterrer aussi. Non, il a fait Monte Cristo.
Alors, il a fait un hommage à Monte Cristo aussi, puisqu'il était admiratif du héros d'Alexandre Dumas, et donc qui s'était échappé du château d'If en prenant la place d'un mort qu'on jetait dans l'eau. Et il avait un couteau, et le comte de Monte Cristo a réussi à s'évader comme ça. Et donc Pinoncelli a fait la même chose, le même geste. Il s'est fait enfermer dans un sac avec une pierre et un couteau dans les mains. On l'a lancé dans l'eau. Et par sécurité, il n'y avait pas des gens dans l'eau, mais il y avait des plongeurs sur le bateau qui, si au bout d'un moment ils ne remontaient pas, pouvaient plonger et essayer de le trouver. Non, mais c'était quand même très risqué. Et effectivement, ça c'est une performance qui a eu lieu en 1975, où on voit aussi le rapport à l'enfance, puisque c'était ses lectures d'enfance, et puis la prise de risque.
Et c'est ça qui me le rend très sympathique par rapport à tous les autres performeurs, ceux qui ont vendu leurs baisers, leurs serviettes hygiéniques, etc. Il n'y a pas grand intérêt. Il y a ça, il y a le risque qui rentre de façon omniprésente. Ce qu'on va faire, on va écouter d'un tout petit peu de musique. On va revenir à Polaroid. Et pour finir l'émission, si on a le temps, parce que là, on va revenir à l'enfance, cette chose très cruelle, entre guillemets, très cruelle, qu'il a fait avec le Père Noël. Mmh. Ah, d'accord.
Oui.
D'accord. Très bien. Alors, un tout petit peu de musique et puis on revient à Polaroid.
Ah, très bien, très bien.
Un homme, se rendant à son travail, descendit dans la rue et y rencontra un autre homme, lequel, portant une baguette polonaise, regagnait ses pénates.
Et voilà, en fait, c'est tout.
Un homme, se rendant à son travail, descendit dans la rue et y rencontra un autre homme, lequel, portant une baguette polonaise, regagnait ses pénates.
Et voilà, en fait, c'est tout.
Un homme, se rendant à son travail, descendit dans la rue et y rencontra un autre homme, lequel, portant une baguette polonaise, regagnait ses pénates.
Et voilà, en fait, c'est tout.
Un homme, se rendant à son travail, descendit dans la rue et y rencontra un autre homme, lequel, portant une baguette polonaise, regagnait ses pénates.
Et voilà, en fait, c'est tout.
Eh ben voilà, c'est tout Monique, au 01 43 71 89 40. On va quitter Pierre Pinoncelli pour quelques instants et revenir à la marque Polaroid, texte, poésie et instantané. Peinture Jean-Marc André aux éditions Tim Bad. Monsieur, alors allez-y, je vous écoute, monsieur Lamar.
Alors moi je voulais revenir sur cette sur ce lyrisme. Pour moi, je dirais que c'est vraiment le contraire, c'est du contre-lyrisme. Hein. Et comment dire, tout à l'heure, Ghislaine a parlé d'une
intention. Je ne suis pas contre le mot, très bien.
Ah, absolument. Parce que sinon, comment dire, pour moi, qu'est-ce que le lyrisme? Le lyrisme, c'est le chant, c'est chanter, c'est danser, c'est, etc. Bon, là, j'avais juste, je veux illustrer ça en faisant une petite lecture de rien du tout, deux petites poésies. Viens, pose ton cul ouvert au-dessus de moi, que je le saisisse et plonge ma langue jusqu'au fond de tes entrailles. Agenouillée telle une chienne, ses fesses tendues se laissent transpercer par le sexe fou. Bon, là, pour moi, ce que je ressens, c'est, bon, c'est sur mon propre texte, c'est pas par prétention, mais derrière, pour moi, il y a de la hargne. Et quand tu as de la hargne, tu peux pas avoir du lyrisme. Voilà. Sinon, Artaud, c'est lyrique. Sinon, tout est lyrique.
Ouais. Oui, oui. Mais les grands, ouais. les grands chants de colère à Lamarck sont lyriques. Il y a de la hargne dedans. Les grands chants, il y a des grands chants politiques qui sont lyriques et qui sont très hargneux. Ah, j'y peux rien.
Oui, mais moi, je ne chante pas.
Ah oui, mais c'est peut-être pour ça. Mais maintenant, que ce soit du contre-lyrisme, je dis oui. Alors, je dis oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Francis Ponge, qui est du contre-lyrisme aussi.
Oh, il est vraiment très doux, Francis Ponge.
Il est très chiant aussi, mais...
Ouais, exactement, d'accord. Ce que j'allais dire. On s'emmerde en lisant, quoi, franchement.
Mais c'est pas du Bernard Noël. Bernard Noël, on est dans le grand livre, c'est du contre-Bernard Noël.
Oui, mais tu as, dans Bernard Noël, tu as une intention.
D'accord. Tu as aussi de l'amour.
Ah, mais pour moi, on ne peut pas bien faire l'amour si on n'est pas amoureux. Ouais. Mais bon, c'est une autre question. Oui. Il y a deux.
Oui. Alors là, ça sent un peu l'église. Vous avez d'obédience chrétienne, monsieur ou non, vous avez une formation chrétienne,
non? C'est ce que je constate. D'accord, c'est ce que j'ai constaté pour le moment. Bon.
D'accord.
Peut-être que je n'ai pas encore tout découvert.
Vous avez collaboré avec un peintre, là
Alors, collaborer, oui, on peut dire ça, parce que le travail de Jean-Marc André est beaucoup plus narratif. C'est quelqu'un qui n'est pas tellement connu, c'est un peintre sur Beauvais, un peintre beauvaisien. Mais moi, j'ai recadré ces peintures. C'est-à-dire que ce ne sont pas ces vraies peintures. Par exemple, dans celle-ci, tu en as une là, où c'est une femme enceinte et l'homme derrière, la machine un petit peu. Bon, et ben en dessous, tu avais une phrase. Moi, j'ai enlevé la phrase. Là, j'ai vraiment... approcher la scène, le cadre, sur la zone sexuelle en érection. Voilà, c'est ça qui m'intéressait pour travailler, enfin pour être de conversation avec ces textes-là.
Oui, non, mais...
Voilà, donc on a collaboré ensemble, vu qu'il a bien... Il a accepté quand même que je déforme son œuvre, quelque part. Hein. Et j'ai écrit un petit texte qui n'est pas forcément très bon, mais pour le remercier, quoi. Hein. Voilà.
Vous vouliez intervenir, Gisèle?
Non, rien à dire.
Bon, monsieur...
Oui, par exemple...
Allez-y.
Georges Bataille, Histoire de l'œil, je ne vois pas de lyrisme dedans. Moi, quand j'ai... La première fois, j'ai un grand souvenir dans la librairie de mon époque, quand il y avait encore une bonne librairie à Beauvais. Tu vois, on n'a plus de librairie à Beauvais. C'est terrible. J'ai ouvert Histoire de l'œil, que je ne connaissais pas. J'avais 20-25 ans. J'ai lu une page. Je suis reparti en courant.
D'accord.
Mais vraiment. Oui. Bon. Et il m'a fallu des années avant que je revienne vers ce texte et que je l'adore.
L'exemple que j'ai pris, c'est Bernard Noël, Château de Seine. Hein.
Oui.
J'ai pas pris Bataille. Hein.
Oui, mais bon, on n'est pas loin quand même.
Ouais, hein,
on n'est pas loin. Bataille. Bon. Les Polaroïdes, moi, j'ai beaucoup pensé à Louis Calaferte, à la mécanique des femmes. Bon, bien que quand il dit la mécanique des femmes, pour moi, c'est plutôt la mécanique des hommes qu'il décrit. Mais on est un peu dans la même veine, c'est-à-dire il y a aussi une colère contre pour moi, comment dire, on ne peut pas bien faire l'amour s'il n'y a pas transgression, s'il n'y a pas jeu aussi, hein, jeu
comme... Il a été condamné pour Septentrion, en fait, Calaferte, c'est pas un des livres condamnés,
oui,
hein, c'est un des livres condamnés sous Giscard, ça.
Oui, bah là il mélange la Bible avec
il avait été condamné là. Mm-hmm, bah, vous plaidez bien votre cause, mais je suis d'accord pour le contre les... mais
c'est... Parce que sinon, tu vas me mettre en colère à force. Hein,
Je suis d'accord. Oui, bah, tant mieux. Moi, ça me dérange pas du tout. Ça me fera rire. Donc, au niveau du rire, monsieur, on va finir par le rire et le Père Noël.
Oui.
Hein?
Alors oui, Pierre Pinoncelli a fait une performance qui n'est pas dans mon film non plus, celle-ci, parce que j'ai trouvé ni témoin ni archive. Ce qu'il faut voir, c'est que de manière générale, c'était un peu un défi de retrouver des gens pour témoigner de gestes éphémères qui se sont produits parfois il y a 50 ans, où juste je savais qu'il y avait des gens, mais j'avais ni leur nom ni leurs adresses. Donc en fait, entre le moment où j'ai décidé de faire le film sur Pinoncelli en 2010 et le moment de sa sortie, il y a eu 12 années. Parce que c'était très long de retrouver le policier qui l'arrêtait dans la banque, etc. Donc j'ai cherché des témoins de cette performance qui s'appelait « Maman, le Père Noël est devenu fou, il casse tous nos jouets ». Et en fait, j'en ai pas trouvé. Mais Pinoncelli en a fait des récits qui sont très bien, notamment pour une exposition sur la performance qui a eu lieu il y a quelques années à la Villa Arson, où il y avait un texte enregistré de lui. Et en fait, déjà en 1967, Pinoncelli trouvait qu'il y avait une débauche, que Noël devenait complètement une fête commerciale, la fête de la consommation, etc. Et donc, il s'est déguisé en faux Père Noël, le 24 décembre, devant les Galeries Lafayette à Nice. Et là, avec un attroupement gigantesque autour de lui, de familles, d'enfants, etc., il sort des jouets un par un et il les casse sous les yeux éberlués des parents. Il casse une poupée, il casse un train électrique, il casse un tambour. Et là, les petits-enfants pleurent tout de suite, ils deviennent hargneux. Les parents ils demandent de cesser immédiatement. Et Pinoncelli continue, un par un. Il a cassé des soldats, etc. Et finalement, les parents sont devenus assez agressifs avec lui. Et à tel point que là, il a dû partir en courant, en soulevant sa jupe de Père Noël. Pour ne pas être agressé par les parents qui le sommaient vraiment d'arrêter. Oui.
Très drôle, génial. Il n'y a pas de document.
Et non, alors là, personne n'a filmé, personne n'a photographié. Il faut dire que les gens étaient outrés et donc personne s'est dit tiens, c'est intéressant, je vais faire une photo. Peut-être que quelqu'un s'en souvient, mais je n'ai trouvé personne dans mes recherches pour celle-ci.
Sa dernière performance, c'est celle de L'Ingrid Pétancourt, non ?
Non, ça, ce n'est pas la dernière chronologiquement, parce qu'en fait, mon film est chronologique, sauf deux choses. C'est-à-dire, d'une part, Diogène, premier SDF, je l'ai extraite de l'ordre chronologique pour la mettre en prologue. Et d'autre part, cette performance en Colombie qui s'appelle « Mourir à Cali, hihi », je l'ai extraite aussi pour la mettre à la fin, parce qu'en fait, elle est tellement forte que c'était difficile de parler d'autre chose après. Mais il l'a faite en 2002, donc 4 ans avant de casser l'urinoir de Duchamp au D'accord. Centre Pompidou. D'accord. Donc déjà, celle-ci a eu lieu après, et il y en a eu d'autres aussi.
Il a été condamné pour l'urinoir ?
Oui, alors c'est un procès qui a duré, alors pour en 93, qui a duré 6 ans. Et c'est un des rares cas où c'était un procès d'un État contre un artiste. Le premier qui était très connu, c'était évidemment le procès Brancusi contre États-Unis en 1927, où Brancusi a été condamné pour introduction frauduleuse de métal aux États-Unis, parce que les douaniers, en ouvrant les caisses, on ne pouvait pas croire que c'était des œuvres. Ils ont dit, mais non, c'est des blocs de métal, donc on va les taxer. Et donc, ça a donné lieu à un procès où finalement, Brancusi a gagné. Là, on avait aussi un procès État français contre Pinoncelli, donc aussi un artiste face à un État, puisque c'est l'État qui est le propriétaire de l'œuvre. Donc, quand il l'a cassé en 1993, Pinoncelli imaginait au Carré d'Art de Nîmes se faire arrêter dans le musée et continuer sa performance pendant le procès. Mais il ne s'est pas fait arrêter. Ça a fait un bruit pas possible. Personne n'est venu. Il continue de visiter l'exposition. Il pose son marteau sur une armoire de Joseph Beuys. Il continue de visiter l'exposition. Et comme il ne se passe toujours rien, il rentre chez lui. Et c'est un peu déçu. Et le lendemain, il entend à la radio qu'un vandale a cassé l'urinoir de Duchamp. Et il téléphone à la radio pour dire que ce n'est pas un vandale, c'est un hommage à Marcel Duchamp. Il explique son geste. D'accord. Donc, il se fait arrêter chez lui.
De plus, il y a 17 urinoirs, il faut le dire.
C'est un multiple, hein. Et l'original a été perdu. Voilà. Donc, c'est un multiple qui a été fait 50 ans plus tard par Marcel Duchamp et la Galerie Schwarz. Et donc c'est vrai que ce n'est pas du tout une œuvre unique qui l'a brisé, c'est un multiple. Oui.
Très rapidement, Virgile, ils se sont rencontrés, Duchamp et Pinoncelli.
Oui, ils se sont rencontrés justement en 1967 à New York, quand Pinoncelli avait rendu hommage à Yves Klein en se peignant la tête en bleu Klein et en allant dans sa rétrospective. Et là, Pinoncelli a dit à Duchamp, mais un jour, je vais faire quelque chose dans votre urinoir. Et il pensait à l'urine, d'accord, en tout cas. Donc, et Duchamp lui aurait souri en lui disant, mais allez-y. Et après, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, Pinoncelli a été voir des exemplaires donc, de cette fontaine, puisqu'on dit toujours l'urinoir, mais le vrai titre, c'est la fontaine de Duchamp, mais était toujours soit trop haute, soit derrière une vitre. Donc, c'était impossible de s'en servir. Et c'est si, finalement 23 ou 26 années plus tard qu'il a pu le faire enfin au Carré d'Art de Nîmes. Donc, un procès qui a duré 6 ans, à la fin duquel, finalement, il n'a pas été condamné. Mais quand il a recommencé en 2006, là, il y a eu un autre procès. Et comme, en fait, ce qui se passe aussi derrière, c'est pourquoi il a été au-delà d'uriner dedans en voulant le casser, c'est aussi parce que quand Duchamp est mort, il y a eu toute une spéculation sur ces exemplaires qui se sont mis à valoir plusieurs millions de francs après la mort de Duchamp dans les années 90, puis plusieurs millions d'euros par la suite. Et donc, c'était une sorte de contradiction. Donc, le coup de marteau, il était plus contre ce qu'avait fait le marché de l'art et l'institution de l'urinoir de Duchamp.
D'accord. Vous voulez intervenir
D'accord.
Bah, c'était un plaisir. Qu'est-ce qu'on attend de la femme à barbe? Il y a quelque chose qui arrive ou pas?
Il y a quelque chose qui est déjà arrivé.
Bah alors, je ne sais rien. C'est quoi?
Non, il est arrivé une bijouterie charcuterie.
Ah, c'est ça. Hein, de monsieur
Bernard Briantet, que tu connais.
Oui.
Voilà. Et qui est...
Bernard Briantet publie souvent dans la empreinte de Claude Brabant.
Oui, que je connais bien, d'accord. Et etc. D'accord. Voilà, voilà la bijouterie.
Ah, magnifique. Magnifique. Ah oui, très belle. Ah, elle est belle. Très
voilà,
belle.
Donc bijouterie-charcuterie sur le travail de Bernard Briantet avec des textes de Rémi Berion, qui est un journaliste. Voilà. Et c'est chez l'œil de la femme à barbe édition aussi.
Virgile, le film, on le voit où et comment? Parce que c'est bien de venir ici, mais il faut quand même... Alors, c'est où et comment?
Alors, d'une part, il est disponible en DVD et en VOD chez Après Production. Donc, on peut le trouver sur Internet. On peut le commander aussi dans une librairie. En VOD, c'est vidéo à la demande. Donc, on peut aussi tout simplement le louer le fichier, le regarder chez soi. Donc, il faut voir le site d'Après Production. Et d'autre part, il a été sélectionné dans 2 festivals cette semaine. Donc, il sera projeté à Toulouse jeudi et au Mans samedi.
D'accord. Et c'est fini pour le Saint-André des Arts?
Le Saint-André des Arts, oui, il y a eu 14 projections qui se sont très bien passées, mais il y aura 2 projections supplémentaires les 2 premiers mardis de janvier.
Bah, j'engage, parce qu'à aller le voir, c'est très agréable. Hein. Très... Et puis lui, franchement, il est très sympathique. Hein. Pinchini.
Oui.
Hein, il est adorable. Oui, monsieur, allez-y. Non, je vous vois.
Alors, oui, peut-être finir en conclusion pour... comment dire, donner quelques petits sous-titres de Polaroid, parce que chaque Polaroid est numéroté par un chiffre romain et a un sous-titre. Donc là, je suis à la page 38-39 et je vais lire tous les sous-titres. Sperme au milieu de la confiture, grimace de la douleur, dans leurs yeux, leur bite se dresser, vous voir faire l'amour, la queue qu'elle va s'enfiler... Que tu chies de moi, salope.
Ah bon, Polaroid aux écritions Timbad, c'est ça?
Oui.
C'était un plaisir de vous avoir. Hein, c'était un plaisir.
Merci.
Merci à Monique surtout. Hein.
Merci Monique.
Voilà,
merci
parce que sans elle, il n'y a rien qui fonctionne.
Monique. Merci Monique.
Bon, c'est Radio Liberté, 01 43 111 89 40.
Le camarade Chatkin dansait autour du camarade Soutkin. Le camarade Soutkin suivait des yeux le camarade Chatkin. Le camarade Chatkin, de manière insultante, bougeait les mains. Et repoussant, il se trémoussait les jambes. Le camarade Soutkin s'est renfrogné. Le camarade Chatkin a fait un mouvement du ventre et a tapé de son pied droit. Le camarade Soutkin a poussé un cri et s'est jeté sur le camarade Chatkin. Le camarade Chatkin a tenté de s'enfuir, mais il a trébuché et a été rattrapé par le camarade Soutkin. Le camarade Soutkin a donné un coup de poing sur la tête du camarade Chatkin. Le camarade Chatkin a poussé un cri et il est tombé à 4 pattes. Le camarade Soutkin a flanqué un coup de pied dans le ventre du camarade Chatkin et encore une fois, il a frappé un coup de poing sur la nuque. Le camarade Chatkin s'est étalé à terre et il est mort.
a tué Chatkin.
Mes idoles en petits morceaux d'étoiles, tombe à rendre folle, à en perdre les pédales, craquer des gringoles, du haut de son piédestal, des fleurs du mal, du grand tribunal.
Et papa, t'as pas fini la maison, papa, t'as pas rangé le salon, papa, t'as dû perdre la raison. Et papa, t'as oublié les leçons, papa, fourni d'explication, papa, t'as pas demandé pardon.
voyant tes remous, tes ressacs, tout au long du quai rectiligne, un moment je t'avais cru digne de m'écouter vider mon sac. Comme on parle derrière l'oreille d'un chien compagnon de malheur, quand on n'a pas assez d'oseille pour s'approprier la blondeur d'une fille à la peau bien tendre, qui fait bien semblant de comprendre et vous vend un peu de douceur. J'allais te confier mes alarmes, mes fatigues et mes regrets. C'est bête à dire, j'étais prêt à te grossir de quelques larmes. Contenu depuis trop de jours et d'amertume bien salée, mais ta flotte s'en est allée, insensible, suivant son cours, roulant au pied de l'escalier, tant de mètres cubes à l'heure. T'en fous qu'on vive ou qu'on meure, t'es plus bête qu'un sablier. C'est normal, t'es un personnage, ta place est faite au grand soleil, les hommes et toi, c'est tout pareil, y'a pas de pitié qui surnage. T'es vaseuse dans ton tréfonds, moi je m'en vais, adieu la scène, tu sais, avant que je revienne de l'eau coulera sous tes ponts.
Sommes allés de bon matin, vive le vin et la piquette, sommes allés dans ton jardin, le doux, le sec et la clairette, sommes allés au jardiner, oui, oui, mais ta boue est souche et tes tuteurs, ta boue est mouche, ta boue est fleur, mes nerfs sont tabous, à bout dis-toi le bien de tous ces tabous parsemés dans ton jardin, mais pour un petit coup que tu as bu, t'oublies tes tabous, n'en parlons plus. Sommes allés au carillon, vive le vin et la piquette, sommes allés dans ta maison, le doux, le sec et la clairette, sommes allés dans ta maisonnette, oui, oui, mais ta boue, ta louche, ta boue ton beurre, ta boue farouche, ta boue ta sœur, mes nerfs sont tabous, à bout de tout, dis-toi, de tous ces tabous, abrités dessous ton toit, mais pour un petit coup que tu as bu, t'oublies tes tabous, n'en parlons plus. Sommes allés à l'heure tendre, vive le vin et la piquette, sommes allés dans ta chambre, le doux, le sec et la clairette, sommes allés dans ta chambrette, oui, oui, mais ta boue, ta bouche en cœur, ta boue, ta couche, ta boue d'honneur, mes nerfs sont tabous, de toutes les histoires, de tous ces tabous qui me portent à boire. Mais pour un petit coup que tu as bu, t'oublies tes tabous, n'en parlons plus.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signals et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Par un matin de mal de chien, pour certains qui perdent leur sang, d'autres vont bouffer de croissants et feuilleter leur quotidien. D'autres font marcher des sirènes simplement pour sauver quelqu'un. Par un matin de mal de chien, simplement quelqu'un qu'on emmène. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Dans les couloirs de l'hôpital, un ami, fils d'un autre père, d'un autre monsieur que nos pères, dont le sort est aussi brutal. On frôle un peu la tragédie, on se dit quelques mots banals. Dans les couloirs de l'hôpital, on est là pour croire à la vie. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Je venais pour le voir guérir à peu près deux fois par semaine. J'avais la joie, l'autre la peine d'être là, plutôt pour mourir ou pour voir mourir un des leurs dans ces couloirs sentant la cire. Je venais pour le voir guérir et croiser d'autres gens en pleurs. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix.
Eh ben, avant de vous laisser.
What's in a bird? Hollywood sur la tête, reconnais que je suis volage. What's in a bird? Ça me fait congoler, éperdument, juste masse. What's in a bird? Demain j'arrête la flûte, j'aimais pourtant tous azimuts. What's in a bird? À part les équimaux, c'est purement psychosomatique. Mais vous savez, sans doute tout ça mieux que moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les intempéries, les petites frénésies. J'ai une fantaisie, adoucit son dossier. 5, 4, 3, 2, 1, tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner. What's in a bird? Votre cas m'intéresse, veuillez reposer la question. What's in a bird? Éclaterait même des stocks d'amour et de satisfaction. What's in a bird? Trouve-moi un sobriquet, les buts à tes parties charnues. What's in a bird? J'aimerais pas en nouvelle mon abonnement à la berlue. Mais vous savez, sans doute tout ça mieux que moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les intempéries excitent sa frénésie. Une fantaisie adoucit son rosier. 5, 4, 3, 2, 1, tourbillonner. Je me rappelle, moi en dimanche chez toi on se traîne. Notre première concession à l'abri des perfectos. Oh. What's in a bird? À vrai dire, on en parle, vous vouliez de l'information. What's in a bird? Et pourquoi les kiwis empêcheraient-ils d'être sereins? What's in a bird? Nous remercions l'armée pour sa précieuse documentation. C'est quoi que c'est? L'ambulance de monsieur est avancée, bien avancée. Mais vous savez, sans doute tout ça mieux que moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les intempéries excitent sa frénésie. Tue de fantaisie adoucit son gosier. 5, 4, 3, 2, 1, tourbillonner, tourbillonner, tourbillonner. We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette troisième journée des Reclusiennes 2026 sur le thème « Se battre, débattre ». Donc table ronde, combattre le fascisme et la xénophobie en compagnie d'Olivier Manoni qui est à mes côtés et de Philippe Diaz qui va pas tarder à nous rejoindre, enfin il est là. Donc deux interventions sur ce thème et un peu plus largement que ça. Ça nous paraissait évident justement quand on a commencé à travailler sur cette thématique et la manière dont on allait la décliner, que au vu de l'actualité nationale, internationale, ça semblait assez évident qu'il allait falloir parler de la manière dont les idées se propagent, dont les mots nous sont utilisés contre nous, dont ils nous contaminent et dont et la manière dont il faut essayer de s'en défendre pour pouvoir débattre, puisque beaucoup de mots nous sont assénés, on comprend pas toujours d'où ils viennent, donc on va beaucoup parler de cet aspect-là ce matin. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui se prolongera aussi dans l'après-midi, puisque l'antisémitisme est une question souvent brûlante et un mot souvent asséné de façon parfois un peu trop légère. Alors, avec nous ce matin, deux intervenants. Je me suis coupé. Alerter les secours. Et donc, côté noir, à ma gauche, Philippe Diaz. Qui a fait des... Tu crois que c'est mieux comme ça ? Études de philosophie et d'histoire de l'art. Mais comme quoi la philosophie et l'histoire de l'art peuvent mener à bien des choses, il a surtout œuvré comme producteur de cinéma, réalisateur, scénariste. Je ne reviens pas sur la longue liste de films auxquels il a contribué. Comme réalisateur, plusieurs films consacrés à l'Afrique et à son exploitation suite à la colonisation, à son exploitation d'une manière générale. Vous vous souvenez peut-être de La fin de la pauvreté en 2008, film remarquable. Et puis tout récemment, I Am Gitmo, consacré à la manière dont les forces d'occupation en Afghanistan, forces états-uniennes principalement, ont traité des prisonniers qui bien souvent n'avaient pas fait grand-chose en lien avec ce qu'on leur reprochait. Je n'oublie pas de dire, et c'est une des raisons de sa présence, que Philippe est installé aux États-Unis et en Californie depuis 30 ans, où il exerce cette activité de producteur et de réalisateur. Et nous l'avons rencontré récemment à l'occasion d'un des livres qu'il a publié, puisqu'il écrit aussi, il sait tout faire, donc un livre consacré au curé Méliès, et il aura l'occasion de vous en dire quelques mots, puisque le livre est présenté ici, et c'était le premier livre publié par sa maison d'édition, La Dissidence. Quand on a échangé avec Philippe, il nous a parlé de sa présence aux États-Unis, et on s'est dit que ça serait intéressant à Radio Libertaire d'avoir une émission où on viendrait nous dire un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'on sait que ce qui arrive aux États-Unis, c'est toujours en avance sur ce qui peut nous arriver. Donc, étant bien informé, on va essayer d'anticiper un petit peu, même si on a du mal. Et donc, on pense être informé et savoir beaucoup. Je me suis aperçu en écoutant les présentations de Philippe qu'on en savait à peine le quart et que c'était bien pire que ce qu'on croit savoir à travers nos petites chaînes de télé dites d'information. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a fait plus ample connaissance, que Philippe fait cette émission mensuelle qui s'appelle « Une autre voix de l'Amérique ».